Vous écoutez
RMC.
Il est 7h59, excellent réveil à tous sur RMC, très belle journée.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est enfin le début de la Coupe du Monde pour l'équipe de France. Premier match ce soir pour nos Bleus contre le Sénégal. Les Bleus qui sont à New York et on va vous donner les toutes dernières informations dès le début de ce journal. On sera aussi à Évian pour la deuxième journée au sommet du G7. Il sera question de la guerre en Ukraine aujourd'hui. Et vous allez voir que le monde est actuellement en pleine bascule. On apprend ce matin que désormais, on s'informe davantage via Facebook et TikTok que par les médias traditionnels.
Et on va enfin voir les Bleus à la Coupe du Monde.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
C'est long, hein, à chaque fois, entre l'annonce de la liste, les matchs de préparation, le voyage vers les États-Unis. Et donc, ça commence enfin. La France joue ce mardi son premier match du mondial contre le Sénégal. Ce sera à 21h au stade de New York, juste à côté d'ailleurs du studio de RMC. On est vraiment aux premières loges pour tout vous raconter de cette journée qui va nous mener jusqu'au match des Bleus ce soir. Jean-Louis Tour, c'est vous qui allez le commenter. Vous êtes en direct avec nous ce matin. Dites-nous à quoi va ressembler la journée des Français.
Alors, une journée inhabituelle, car horaire inhabituel, car il sera 15h dans le New Jersey au moment du coup d'envoi. Alors on change quelques habitudes. La dernière séance vidéo qui habituellement est organisée le matin du match a été avancée à hier soir à l'hôtel des Bleus. Autre changement, le réveil musculaire a été tout simplement supprimé. Pour le reste, Deschamps a tenu à préserver une certaine routine. Petit déjeuner, puis déjeuner tout de même assez tôt avec l'ensemble du groupe avant une courte sieste, indispensable selon le staff, même avec un match à 15h. Petite collation juste après pour ceux qui le souhaitent. Et puis viendra le moment des dernières consignes du sélectionneur, l'occasion peut-être de remobiliser les joueurs, de rappeler la compo d'équipe avec les quatre attaquants Mbappé, Dembélé, Olise et Doué. Et puis départ vers 13h, heure de New York, car le staff des Bleus souhaite arriver au MetLife Stadium 1h30 avant le coup d'envoi et qu'il faut compter une trentaine de minutes de route depuis l'hôtel des Bleus.
21h, donc ce coup d'envoi, en votre compagnie, Jean-Louis Tour, en direct de New York pour RMC. Tiens, New York où des supporters français se sont rassemblés il y a quelques heures, c'était à Times Square, parce qu'il y a de l'impatience. Ça fait des mois qu'on en parle de cette Coupe du Monde, comme ici, vous allez l'entendre à Évreux, dans la ville d'Ousmane Dembélé, qui a vu passer plein de joueurs de l'équipe de France, Thomas Chupin.
Et on comprend très vite ici, nous sommes avec les successeurs de grands noms du football. Hein.
Dembélé, Upamecano, Steve Mandanda, Brissamba... Mathieu Bonner, il n'a pas joué en équipe de France.
Il y aura forcément des jaloux, parce qu'un nom est crié plus fort que les autres. L'attaquant des Bleus, un modèle pour ces jeunes de l'équipe d'Evreux des moins de 13 ans.
Allez, checkez-vous une dernière fois.
C'est fin, petit pont. C'est petit pont, c'est crochet, son pressing.
Il a le ballon d'or là. Il y a des gens, ils disaient qu'il était nul maintenant. Ils sont là maintenant, ils reviennent bizarrement.
Alors forcément, il y a quelques sélectionneurs ici.
Il faut que Didier Deschamps le mette avec ses gars du PSG, comme ça, il sait comment ils sont. Faut pas qu'ils le mettent avec Mbappé parce qu'ils sont en embrouille, voilà.
Oui, parce qu'il y a débat. Qui est le meilleur ? Mbappé, Dembélé, ce soir, c'est bien pour le deuxième que va vibrer Maé.
Dembélé, il fait plus le pressing, les retours défensifs. Il est moins égoïste qu'Mbappé.
Alors, Jaden en est persuadé, ce soir, Dembélé va entamer une Coupe du Monde record.
8 buts et 6 passes D.
Et en bonus, on a même le scénario du but final.
Il traverse le terrain, il dribble le goal, il fonce le défenseur, il marque après.
Et ben voilà, hein, on verra si ça se passe comme ça ce soir à 21h. Pourquoi pas, hein, on a vécu pas mal de surprises là depuis hier. Et alors la dernière, elle est tombée cette nuit, Virginie Fulpin pour RMC. C'est la Tunisie qui change carrément de sélectionneur en pleine Coupe du Monde. Sabri Lamouchi, donc viré après la défaite des Tunisiens au premier match et remplacé par quelqu'un qu'on connaît bien, à savoir Hervé Renard.
Oui, on a déjà vu sa célèbre chemise blanche sur les bancs de nombreuses sélections. Il va disputer sa quatrième Coupe du Monde avec quatre équipes différentes. Le Maroc en 2018, l'Arabie Saoudite en 2022, avec au passage une victoire sur l'Argentine de Lionel Messi. Et puis l'équipe de France féminine il y a 2 ans. Hervé Renard a aussi gagné 2 Coupes d'Afrique des Nations, d'abord avec la Zambie, puis avec la Côte d'Ivoire. Donc on peut dire qu'il a vu du pays. Il va monter dans l'avion dès ce matin, un vol direct Paris-Monterrey. Il va diriger son premier entraînement avec la Tunisie dès ce soir. Pas le temps de se poser de questions. C'est peut-être mieux comme ça parce que l'entraîneur français arrive en terrain miné. La sélection tunisienne a la tête sous l'eau depuis sa déroute 5-1 face à la Suède pour son entrée dans cette Coupe du Monde. La fédération a tout de suite publié un communiqué pour annoncer le limogeage de Sabri Lamouchi avant de retirer cette publication des réseaux. Finalement, le limogeage a bien eu lieu et Hervé Renard va jouer les pompiers de service le temps de la Coupe du Monde. Il a 2 matchs pour convaincre contre le Japon et les Pays-Bas.
Et alors les yeux du monde entier étaient rivés cette nuit sur le match nul de l'Iran. l'Iran de partout contre la Nouvelle-Zélande. À la fin de ce match, le sélectionneur iranien a dit que son équipe était, je cite, la plus maltraitée de cette Coupe du Monde. Il y a des sifflets qui ont été entendus dans le stade de Los Angeles pendant les hymnes, pendant que l'hymne iranien a été joué à Los Angeles, où se jouait ce match de l'Iran dans le contexte que vous connaissez de la guerre avec les États-Unis. Alors un accord a été annoncé dans la nuit de dimanche à lundi pour y mettre fin à cette guerre au Moyen-Orient. Et c'est seulement hier soir que Donald Trump a réagi et promis une réouverture totale vendredi du détroit d'Hormuz. Il l'a dit depuis le sommet du G7 qui se déroule là pendant 3 jours à Evian. Vous y êtes en direct pour RMC, Rachel Sadoudine, on vous retrouve ce matin. Et aujourd'hui, il sera question de la guerre en Ukraine.
Oui, le président ukrainien est attendu d'ici un peu moins d'une heure ici à Evian, où il devrait être accueilli en personne par Emmanuel Macron, signe que, et Volodymyr Zelensky le sait, l'Ukraine peut compter sur le soutien de ses alliés européens et britanniques. C'est donc le président américain qu'il faut maintenant convaincre, car les relations sont parfois tendues avec Donald Trump, que Volodymyr Zelensky a d'ailleurs accusé dans un sourire d'accaparer tous les hélicoptères pour venir au G7. Le président ukrainien a donc indiqué qu'il se rendrait à Evian par ses propres moyens. Arrivé lui dès hier au bord du lac Léman, Donald Trump s'est targué d'avoir eu une très bonne conversation dimanche avec ses homologues ukrainiens et russes. Lui qui a à plusieurs reprises affiché une forme de fascination pour Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky espère donc obtenir un entretien bilatéral avec le président américain dans la foulée de la réunion de travail consacrée à la paix en Ukraine qui occupera une bonne partie de la matinée.
Et ne manquez pas mon invité à 8h30 dans le face-à-face. Ce sera Thierry Breton, l'ancien commissaire européen et ancien ministre de l'économie. Rendez-vous à 8h30 sur RMC BFM TV.
La Corse. Ça, ce sera le dossier du jour à l'Assemblée nationale. Les députés vont examiner le projet de loi qui prévoit de modifier la Constitution pour accorder à l'île un statut d'autonomie dans la République. Revendication de longue date des nationalistes, mais sans que l'on ne sache encore quel sera le périmètre précisément de cette autonomie. Il y a un changement qui est déjà amorcé, je vous le disais, et ça concerne la façon dont on s'informe. Nous sommes en ce moment à une grande bascule, Romain Houg. Un rapport de référence nous apprend que désormais dans le monde, on s'informe davantage via les réseaux sociaux et les plateformes vidéo que via les médias traditionnels.
Oui, l'Institut Reuters, rattaché à la prestigieuse université d'Oxford, a interrogé pas moins de 100 000 personnes dans 48 pays différents. Et résultat est sans appel, 54% des répondants disent s'informer en se connectant aux réseaux sociaux ou aux plateformes vidéo. Ça monte même à 56% si on ajoute les intelligences artificielles comme ChatGPT, contre 52% pour la télévision, 51% pour les sites et applications de médias et seulement 21% pour la radio. C'est encore plus vrai quand on regarde du côté des jeunes de moins de 24 ans. Plus d'un sur deux s'informe principalement via les réseaux sociaux. À l'inverse, seuls les plus de 45 ans le font principalement en regardant leurs postes de télévision. Alors, tout cela est une tendance de fond depuis quelques années, mais voilà, c'est la première fois que les médias traditionnels cèdent leur place de première source d'information. Et puis, l'autre enseignement important, seuls 37% des sondés ont confiance dans les médias. Jamais ce chiffre n'était tombé aussi bas.
Alors le rapport écrit à propos de l'intelligence artificielle que c'est, je cite, le plus grand défi auquel sont confrontés les patrons des médias et aussi les décideurs politiques. Je vous dis ça parce que là, à l'instant, ce matin, le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce que la France va investir 655 millions d'euros supplémentaires dans le développement en France de l'intelligence artificielle via notamment un outil conversationnel généralisé d'intelligence artificielle pour 1 million d'agents de la fonction publique.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h07, on parle économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Comme chaque matin avec vous, Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, les prix des carburants vont-ils baisser enfin? Quand? De combien?
Alors, remontons toute la chaîne de production de notre litre d'essence. Au départ, c'est du pétrole dont le prix va baisser. La réouverture du détroit d'Hormuz, alors à condition qu'elle se confirme et qu'on n'ait pas de mauvaise surprise géopolitique, cette réouverture va remettre progressivement sur le marché 20% de la production mondiale. Alors certes, ça va pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir réparer les installations endommagées. Il va falloir que les supertankers arrivent en Europe, ce qui prend environ une vingtaine de jours. Il va y avoir une forte demande pour reconstituer les stocks dans lesquels les États ont puisé 300 millions de barils à peu près, mais les prix devraient se rapprocher en quelques semaines de leur niveau d'équilibre d'avant-guerre autour de 70 dollars le baril. Je rappelle qu'on était sur un marché mondial en surproduction et qu'on reste, une fois Hormuz rouvert, sur un marché mondial en surproduction. Donc 70 dollars le baril, c'est l'objectif. En un week-end, on est passé de 92 à 82 dollars le baril. Donc là, on tient déjà 10 centimes de potentiel de baisse. Si on baisse jusqu'à 70 dollars le baril, allez hop, ça nous rajoute 10 centimes de baisse potentielle.
Mais là, vous nous parlez de pétrole. Donc, oui. Ce qu'on met dans la voiture, c'est de l'essence. Donc, quelle est la différence et quand est-ce que ça se verra à la pompe?
C'est tout à fait juste, Apolline.
Alors, c'était malin.
Alors, suivons le chemin de notre baril de pétrole. Ce pétrole, il est acheté par des raffineurs qui vont le transformer en carburant, en gazole, en sans-plomb. Et il sera revendu ensuite aux distributeurs. Là, on a déjà baissé quasiment de moitié depuis la mi-avril. Et puis, rappelez-vous, il y a ces fameuses marges de raffinage. En janvier-février, avant la guerre, on était à 4 centimes par litre. Okay. On est monté pendant la guerre à 15 centimes par litre. En mai, on était à 13 centimes par litre. Imaginons que ces marges se dégonflent et reviennent au niveau qu'elles atteignaient avant la guerre. Et ben, ça nous refait 10 petits centimes. Donc 10 plus 10 plus 10, ça nous fait une trentaine de centimes de potentiel de baisse dans les prochaines semaines, ce qui nous ramènerait de 1,95 à 1,65 le litre. On retrouve à peu près les prix d'avant-guerre. Alors ça ne se diffusera pas au même rythme dans toutes les stations. Les plus fréquentées sont réapprovisionnées tous les jours, les moins fréquentées tous les 8 à 10 jours. Mais grosso modo, dans le courant de l'été, ce qui sera sans doute plus favorable aux Aoussiens qu'aux Juilletistes, on retrouvera des prix du carburant plus raisonnables. Alors, le petit conseil, hein, pour pas faire le plein, c'est que quand les prix baissent, bah, prenez juste ce dont vous avez besoin.
Et attendez que ça baisse encore.
Et puis revenez plus souvent en profitant. Non, mais plutôt que de faire un plein cher, allez-y, faites-le.
En espérant effectivement que dans les jours qui viennent, ça sera de moins en moins cher.
Alors, ce sera très probablement de moins en moins cher.
Aujourd'hui, on en est où, comme tous les jours, les chiffres exacts, Manu?
Alors, sur le gazole, bah, ça continue à baisser gentiment, hein. 1,98€, c'est 4 centimes de moins une semaine. Sur le sans-plomb, ça résiste toujours, 1,95€ le litre, ça baisse pas beaucoup depuis ces quelques jours. Mais sur le pétrole, $82 le baril, on a perdu $10 en un week-end, et le gaz, on a perdu 15%.
Donc le gaz, il baisse aussi, aussi beaucoup. Merci Emmanuel, 8h11.
I'm free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Restez bien avec nous, il est 8h11 sur RMC. Dans un instant, Arnaud Demanche arrive à 8h30, le face-à-face. Mon invité, ce sera Thierry Breton, l'ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie. Après 108 jours de guerre, les États-Unis et l'Iran ont donc officiellement trouvé un accord, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? Quelles conséquences pour nous? Et puis le G7, bien sûr. Thierry Breton, c'est donc mon invité à 8h30. Juste après, il y aura le choix de la rédaction. Après l'affaire Liana et le scandale des abus sexuels dans le périscolaire, de plus en plus de parents hésitent, vous l'entendrez, à envoyer leurs enfants en colonie de vacances. Il est 8h11 sur RMC, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
C'est tous les jours, Arnaud de Manche, 8h15.
Bonjour Apolline, bonjour Géraldine, Élise, Mathieu, bonjour à tous. On est motivés car ce soir, c'est le début des Bleus en Coupe du Monde.
Allez
Et
Mathieu,
Dalida. Pour le mondial, Apolline, chez elle, il y a tout le kit du supporter. Il y a des perruques bleu, blanc, rouge, des maillots, des sifflets. Elle a même adopté un coq. Il gueule très fort et il parade. Du coup, elle l'a appelé Jean-Jacques. Et Apo, elle va gueuler devant sa télé. Allez Dembélé! Allez Dembélé! Alors que c'est Lucas Digne. Le match est à 21h, donc à la mi-temps, Apo, vous allez vous endormir. Hein.
Voilà,
on se lève tôt.
Peut-être dès la pause fraîche.
Oui, en fait, si ça peut vous consoler, on va tous s'endormir. C'est Didier Deschamps, le sélectionneur. C'est pas un jeu très flamboyant. Et donc, c'est la France contre le Sénégal. C'est le match de ce soir, mais c'est aussi le programme d'Éric Zemmour.
Oui.
Alors, les supporters sénégalais n'ont pas eu le droit d'entrer sur le territoire américain. Même pour certains joueurs, ça a été compliqué, cette Coupe du Monde au niveau immigration. Les gars de la police de l'immigration, ils vont être sur le bord du terrain avec le panneau des arbitres pour les remplaçants, vous voyez, avec les chiffres. Sortie du numéro 4, du numéro 5, du 11, du 14, du 9, du 2, du 3, du 17. Mais il n'y a pas de remplaçants qui entrent? Si, si, mais dans leur pays. Et alors, Apolline, est-ce que vous avez vu la rumeur de ce mondial?
Effectivement, une rumeur court sur les réseaux sociaux. Ce serait un sosie de Shakira qui aurait chanté pour la cérémonie d'ouverture. J'avoue, je ne l'ai pas reconnu.
Eh ben, son apparence a intrigué, hein. C'est fou. Shakira, même à un concours de sosie de Shakira, c'est pas sûr qu'elle gagne. Même les photos de Xavier Dupont de Ligonnès chez Julien Courbet, ils ressemblaient plus à Shakira que ça. Non, mais ça doit être la chirurgie esthétique. Alors, est-ce que c'était elle? Eh bien, j'ai bossé, figurez-vous, Apolline. Et en exclusivité pour RMC, je suis avec Shakira en ligne. Shakira, est-ce que c'était vous?
tout à fait. Entre deux Coupes du Monde, je me suis ressourcé à l'Institut du Monde Arabe pour préparer ma prestation. Jamila mila, hé hé, Jamila mila, j'en ai ouah, les chales pour Africa. J'en étais sûr, c'était pas elle. C'était Jack Lang avec une perruque, on s'est tous fait avoir.
Karim Bouamran, le maire de Saint-Ouen, se lance dans la course à la présidentielle.
Oh, chouette, ça manquait de candidat.
Ouais.
Alors Karim Bouamran, on le connaît parce qu'il a tenté de faire fermer un master poulet dans sa ville.
Ah, c'est Jean-Jacques ?
Ouais, il veut voter Bouamran, votre coq. Couché Jean-Jacques, on travaille. Bon, alors, il avait raté le master poulet. Si déjà master poulet, c'est compliqué, imaginez face à master Poutine, ça va être dur. Et même face à Trump. L'homme qui se débarbouille avec des chicken wings, comment il va faire? Alors Karim Bouamran, il représente un peu l'aile droite de l'aile gauche de la frange la plus à droite du PS.
L'aile?
C'est l'aile de poulet.
Voilà.
Exactement, c'est l'aile à Jean-Jacques. Et il est coincé entre les autres candidats de gauche, donc François Hollande, Parti Socialiste, Raphaël Glucksmann, Place Publique,
Jérôme Guedj, oui.
Lydie Massa, ouais, Union Démocratique Bretonne,
oui.
Pierre Rouselier, Socialisme et Phytothérapie, Étienne Boissard, Socialisme et Caramel Bou, enfin, il y en a plein. Ceci dit, ils ont quand même tous un point commun, ils trouvent qu'Olivier Faure est nul. Bah c'est bien, ça rassemble.
Bon, et puis hier, Arnaud, c'était le bac philo.
Alors les sujets, vous avez vu les sujets? Peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas? Bah oui. C'est même mieux. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Il y a aussi la technique peut-elle être mauvaise? Alors j'ai quelques ex qui m'ont reproché ça, mais je trouve que c'était très exagéré. Mais c'est compliqué la philo. Aujourd'hui en plus les gamins ils sont beaucoup sur TikTok, j'ai des parents d'amis qui sont désespérés. C'est pas là qu'on apprend la philo quoi. T'as pas Jérém Star qui reçoit des philosophes dans son bain.
Salut les chouchous! Alors, aujourd'hui, le sujet du bac, avons-nous la maîtrise de nos paroles? Et c'est vrai, moi, ça m'arrive de paroler, mais parce que je suis pipelette, et tout, je parole, je suis Dalida. Et pour en parler, je suis avec Bernard-Henri Vély, qui est dans mon bain. Bonjour BHV! Non, BHL! Pardon, en tout cas, j'adore votre chemise, hein. Elle est toute blanche et tout. Ça te voit que vous êtes marié avec une lessive.
C'est Ariel.
Hey, y avait un petit temps.
Alors, vous êtes philosopheur, fist.
Non, ça ira.
Donc philosophiste, donc, et votre préféré, c'est. C'est le grand-père de N'Golo Kanté, c'est Emmanuel Kanté. Non, Kant. Et mon philosophe préféré, c'est Nietzsche. Vous n'avez pas lu mes livres? Non, je ne les ai pas lus, mais comme tout le monde en fait. Là, pour le coup, je suis au niveau des autres. Alors Nietzsche, j'ai révisé, c'est celui qui a écrit « Ainsi parlait Zaya, tout ça ». Et il explique comment elle parlait Zaya, tout ça, comment elle a fait Sori Berry, tout ça. C'est là qu'on voit que la parole, c'est important. Vous voyez, il y a encore un peu de taf quoi en philo. Allez, à demain.
À demain. Arnaud, qu'on retrouve en podcast, en direct sur RMC et en tournée partout en France. World, ça commence à Nice, à Épinal, à Gaillac, à Toulon, à Tours, à Morières-les-Avignon et à Paris en solo.
Au solo.
Il est même pas en solo.
En plus, c'est en duo.
Il sera en duo. Et ce sera le 25 juin prochain. Mais ça approche, dis donc.
Et ouais, c'est pour après-demain.
Oh là là, magnifique. Allez, un spectacle RMC, il est 8h20.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Et on part au 32-16 à 8h20. C'est Julien qui est en direct avec nous de Montpellier, qui est infirmier. Bonjour Julien.
Bonjour Apolline, bonjour l'équipe.
Comment ça va Julien? Vous êtes prêt pour ce soir?
Ouais.
21h, France-Sénégal.
Ouais.
Vous voyez les choses comment?
Bah ouais, enfin moi j'ai traumatisé en 2002, donc là le Sénégal en plus c'est une grosse équipe, on n'a pas le droit de se couper.
Ouais, le Sénégal avait battu la France. Soir,
ouais, mais c'est il y a 24 ans, Julien.
24 ans.
La plupart des joueurs, ils étaient même pas nés.
Bah oui, mais moi oui. À 40
ans, j'ai vécu.
Très bon, Julien, très bon. J'adore. Bah oui, mais moi oui.
Et je reste moi, je prends bien une surprise comme champion du monde, genre l'équipe africaine.
Ouais, ah oui.
Je sais pas pourquoi. J'aimerais qu'on ait la troisième étoile, mais. Parce que quand on voit l'Espagne qui fait match nul contre le Cap-Vert, le Brésil, le Maroc qui tient tête au Brésil.
Mmh. Oui. Et puis c'est pas mal de t'entendre des surprises. Bon, jusqu'à un certain point.
Surprenez-nous,
mais laissez-nous gagner à la fin, quoi. Julien, très très belle journée donc dans l'attente de ce match de ce soir.
Ça va être long.
Ce sera à suivre sur RMC. C'est vrai que la journée va être très 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 longue.
Heureusement qu'il y a la radio 100% Coupe du Monde.
Complètement. Il est 8h22. Tiens, je vais lui poser la question. Tiens, vous savez quoi? Je reçois tout à l'heure Thierry Breton. Alors Thierry Breton, on sait surtout qu'il est ancien commissaire européen. On sait surtout qu'il est ancien ministre de l'économie. On sait un peu moins qu'il a aussi la nationalité sénégalaise. Oui. Alors je ne sais pas pour qui il vibrera ce soir. Je lui poserai bien sûr la question. Enfin, ce sera pas le cœur de l'interview. Mais ça mérite ça mérite une question. C'est donc sur RMC et BFM Thierry. Thierry Breton, mon invité dans un instant. Oui, mais voilà, Arnaud demande juste avant le face-à-face. Comment voulez-vous, moi, que je reste sérieuse? Allez, à tout de suite. Merci d'écouter RMC. Il est 8h24.
RMC. Apolline Matin.
Le rappel des titres, Quentin Vinet.
La guerre en Ukraine, voilà de quoi il sera question aujourd'hui au sommet du G7 qui se déroule pendant 3 jours à Evian, en présence de l'Ukrainien Volodymyr Zelensky et de l'Américain Donald Trump qui a réagi hier soir à l'accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Donald Trump promet une réouverture totale vendredi du détroit d'Ormuz. C'est dans ce contexte que les distributeurs de carburant sont convoqués dans la matinée à Bercy, au moment où le litre de gazole repasse pour la première fois depuis le 7 mars sous la barre des 2 euros d'après les chiffres du gouvernement. C'est enfin le début de la Coupe du Monde pour l'équipe de France de football. Ce mardi, les Bleus qui vont jouer ce soir à 21h leur premier match du Mondial contre le Sénégal. C'est la même affiche qu'en 2002. Ce sera en plein après-midi à l'heure américaine au stade de New York, juste à côté du studio de RMC. Les supporters français sont rassemblés durant la nuit. Ils ont donné de la voix à Times Square, en plein cœur de New York, où il y a eu quelques heures aussi entre supporters algériens et argentins. Les deux pays qui s'affronteront la nuit prochaine à 3h du matin. Cette nuit, l'Iran a fait match nul de partout contre la Nouvelle-Zélande et la Tunisie a officialisé son changement d'entraîneur, Sabri Lamouchi viré après la défaite inaugurale, remplacé par le français Hervé Renard. Et puis la météo pour aujourd'hui, le ciel parfois voilé, c'est demain qu'on entrera dans la 52e vague de chaleur de notre histoire et les températures pour cet après-midi comprises entre 20 à Brest et 35 à Perpignan.
C'était la météo sur RMC. Bonne journée.
C'était le rappel des titres de Quentin Vinet. Dans un instant, mon invité, c'est Thierry Breton, l'ancien ministre de l'économie, ancien commissaire européen. Donald Trump arrive en France. Et puis, vous savez quoi? Eh bien, Thierry Breton, il a même pas le droit à un visa américain. Que dire à Donald Trump? Qu'attendre de ce G7? Les réponses avec Thierry Breton dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes bien sûr ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie et l'arrivée de Donald Trump hier. Donald Trump, dont on peut repréciser ici que vous n'êtes toujours pas officiellement autorisé à fouler le sol américain. On en est où?
À ce stade, non, mais on va voir, ça peut évoluer.
On va voir, vous voulez dire que peut-être que dans les 24 heures, vous obtiendrez votre visa. Plus sérieusement, Thierry Breton, si précisément il vous a été refusé, c'était le signe, déjà, sans doute, d'une difficulté à trouver la meilleure manière d'être à la fois indépendant, autonome, concurrent même avec les États-Unis, sans en être les vassaux. Conférence de presse de Donald Trump cet après-midi, grand dîner à Versailles demain soir, on va parler évidemment du G7, mais d'abord cet accord ou ce pré-accord dont on commence à connaître les détails, peu de détails, ça devrait tenir sur un Bristol quasiment, c'est ce que nous disait François Clémenceau tout à l'heure. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle cet accord?
La bonne nouvelle, c'est que cette guerre qui n'avait aucun sens, puisqu'on voit maintenant qu'aucun des buts de guerre n'a été atteint, touche à sa fin. En tout cas, il faut vraiment l'espérer. Donc ça, bien sûr, les uns et les autres vont dire, et on va y revenir très certainement, finalement c'est pire qu'avant, etc. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit enfin le bout du tunnel. Et pardon de le dire, mais il faut s'en réjouir. D'abord, pour les Iraniens. Parce que c'est quand même le peuple martyr. Le peuple martyr à qui on a fait croire qu'on viendrait les libérer. Ça a été l'un des éléments déclencheurs de la guerre, on s'en souvient. Je fais allusion évidemment à Donald Trump lorsqu'il a dit, après son succès de l'exfiltration, je mets des guillemets, de Monsieur Maduro, attendez, j'arrive, et on a vu ce qui s'est passé, des dizaines de milliers de morts. On sait que c'était évidemment la première logique, le changement de régime. On a vu ce qu'il en est. Le deuxième objectif, c'était évidemment l'arrêt de la capacité dont l'Iran s'est doté d'être très proche de l'arme nucléaire. On voit ce qu'il en est. Je dis on voit ce qu'il en est parce que maintenant, cette interdiction légitime, encore une fois, je le redis, elle est reléguée au calende. Bien sûr, on va en discuter, on va donner 60 jours.
Mais enfin, vous n'avez pas l'air d'y croire beaucoup à ça.
Non, parce que derrière, il faut évidemment revenir quasiment à ce qui avait été fait avec l'accord du JCPOA, c'est-à-dire la possibilité d'avoir sur le terrain des inspecteurs indépendants, et notamment ceux de l'AIEA, pour aller contrôler.
On ne peut pas prendre pour argent comptant la parole iranienne.
Non, bien entendu, on le sait, on les connaît bien. Donc voilà, on verra, et je le souhaite évidemment, qu'on puisse y arriver. Mais enfin, ça va prendre un temps fou. Et puis surtout, Apolline de Malherbe, surtout, on va et on l'espère tous arriver à ce cessez-le-feu qui va durer, la fin des hostilités, la réouverture progressive du détroit d'Ormuz. Mais il est inconcevable, je pense, pour toute personne sensée, de penser que les États-Unis vont redémarrer une guerre. Donc ce spectre qui avait quand même fait bouger l'Iran, il est derrière. Donc on va rentrer dans une phase de discussion de 60 jours, 90 jours, que sais-je, sans avoir ce spectre. Donc on espère tous, évidemment, qu'on va convaincre les Iraniens d'avoir à tout le moins, peut-être à tout le mieux du reste, un temps pendant lequel on dit 20 ans, on dit 15 ans, et ils vont s'interdire de procéder à la nécessité.
Mais il faudra rester au minimum vigilant, plus que vigilant. Avec quand même, quelques contradictions dans ce que vous venez de dire, Thierry Breton, parce que vous commencez par dire il faut malgré tout s'en réjouir, y compris pour le peuple iranien. Est-ce que vraiment on peut se réjouir pour le peuple iranien que l'Iran sorte, je ne sais pas renforcé, mais au minimum pas affaibli?
Vous avez raison de le signaler, s'en réjouir, parce que c'est quand même, ils ont été victimes de bombardements, pardon, excusez du peu, y compris, on se souvient des écoles avec des petites filles. Donc ça a été quand même épouvantable. On sait qu'aujourd'hui, il y a 68%, vous m'entendez, d'inflation depuis le début de l'année en Iran. Donc on sait qu'aujourd'hui, l'Iran et donc le peuple iranien ne peut disposer de l'ensemble des matières premières dont il a besoin, y compris pour se nourrir à cause du blocus dans le blocus.
Mais lorsque vous dites vous-même, c'est évidemment, je ne parlais pas des bombardements, mais lorsque vous dites vous-même que dans ce début d'accord, en gros, on va donner pendant 60 jours une sorte de coup d'effranche aux Iraniens, puisqu'ils n'ont plus le pistolet sur la tempe d'une menace de reprise de la guerre, que tout le monde a compris éloignée désormais, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'abandon quand même du peuple iranien?
Alors ça, c'est le deuxième point, évidemment. Alors le premier, c'était quand même pour l'instant.
Bien sûr, le fait que les canons se taisent,
Les hôpitaux puissent refonctionner, il faut aussi les reconstruire, etc. Mais le deuxième élément, et c'est ce que je disais peut-être au préalable de nos propos, c'est que le changement de régime qui avait été la raison principale officiellement, il est complètement derrière nous, et malheureusement, et vous avez parfaitement raison de le rappeler, malheureusement on a là un régime qui s'est survécu à lui-même, qui a résisté, qui va du reste revendiquer cette victoire stratégique. Clairement, puisqu'il a résisté, c'est comme ça qu'il le vend évidemment, et à sa population, mais aussi à l'ensemble des autres pays de la région, y compris plus élargi au sein du BRICS. Donc voilà David qui a résisté contre Goliath.
Et
donc
ça va être le narratif
iranien. Et donc le peuple iranien, on a toujours pas réussi à lui rendre sa liberté. Et il va continuer à vivre sous ce régime.
Au-delà des scénarios, du récit que chaque parti va en faire, lorsque l'on regarde les faits, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui Donald Trump est un homme puissant ou un homme faible?
Il va arriver de toute façon en majesté, c'est ce qu'il voulait. Il va arriver là au G7, il est arrivé hier soir au G7, donc il va se revendiquer de cet accord, encore une fois, de la fin probable des hostilités qu'il avait lui-même déclenchées, on va avoir un narratif triomphant. On sait qu'il est très fort pour cela, donc on va entendre pendant 3 jours le narratif triomphant. L'ensemble des 6 autres membres, le G7, ils sont 7, donc 6 plus 1, donc qui avaient peur qu'ils ne viennent pas, parce que évidemment c'est quelque part le temple, le symbole du multilatéralisme.
Est-ce que tout le monde vit dans une forme de crainte désormais vis-à-vis de Donald Trump?
Bien entendu, une sorte de crainte, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, tout le monde a compris que nous étions désormais dans une logique de rapport de force, puisque la confiance, qui était, l'élément qui nous a permis de rebâtir le monde d'après-guerre, a volé en éclats. C'est Donald Trump qui l'a fait voler en éclats, et donc c'est remplacé aujourd'hui par des rapports de force. Les États-Unis exercent ces rapports de force, pas toujours du reste avec succès. On le voit aujourd'hui en Iran. On a exercé des rapports de force, et au fond, qu'est-ce qui se passe? On rouvre le détroit d'Ormuz, mais on va être obligé de payer. On a quand même aujourd'hui aujourd'hui, je dirais, détruit à peu près 0,8 à 0,9% de la croissance mondiale, ce qui crée des répercussions dramatiques dans un certain nombre de pays, y compris les pays en voie de développement et en particulier l'Afrique. On a, nous, en Europe, une croissance qui était estimée à 1,2% qui va être au mieux à 0,8. Donc, on paye tout ça. Et nos,
et ça, c'est vraiment et nos le coup bien sûr, de ce qu'il s'est joué sûr, au niveau européen, au niveau français aussi, hein, parce que notre croissance a été revue à la baisse.
Si on est à 0,6, 0,7, ce sera quand même le maximum, le bout du monde, alors qu'on était plutôt à 0,9, voire 1%. Donc évidemment, et puis tous ceux qui nous écoutent ce matin, bah, l'ont payé aussi, parce qu'on a vu quand même les conséquences directes à la pompe. Donc alors voilà, ça va baisser. Ça baissera du reste moins rapidement qu'on ne le souhaiterait. On va prendre du temps hein, maintenant, parce qu'il va falloir libérer le détroit d'Ormuz, ça va prendre un peu de temps. Les bateaux, ils sont pas là, ils vont pas sortir comme ça du jour au lendemain. Reconstituer les stocks, ça va prendre du temps. Donc il faut pas s'imaginer que dès la semaine prochaine, on va repasser à 1,65 le prix du
Thierry Breton,
SP95,
vous avez été commissaire européen, vous avez été ministre de l'économie française, vous l'avez dit, on va payer à Hormuz. C'est en tout cas ce qui est en train de se dessiner dans cet accord. Alors ça s'appellera pas un péage, ça s'appellera un service. Mais enfin globalement, on a quand même l'impression que là-dessus, au moment où on se parle en tout cas, Donald Trump s'est plutôt couché. La France dit on n'acceptera pas ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ?
Eh bien, et ce qui va se passer vraisemblablement, alors encore une fois, on va voir, parce que vous l'avez rappelé, ça tient sur une page, on n'a pas encore signé, on va signer maintenant, ensuite, vendredi, c'est qu'est-ce qu'on va signer, Apolline de Malherbe ? Ce qu'on appelle, en anglais, un Memorandum of Understanding, c'est-à-dire un accord cadre. Donc c'est pas encore un accord, hein, c'est un accord cadre. C'est maintenant, on va cadrer les discussions, on va dire, voilà exactement ce sur quoi il faut s'entendre. Et on n'a pas cette feuille, on n'a pas cet accord cadre encore, c'est-à-dire les éléments de la négociation. Parce qu'évidemment, et Donald Trump va pas les donner pendant le G7, parce qu'il veut encore une fois garder le flou, parce que quand on va rentrer dans le détail, évidemment, ce sera pas glorieux. Donc on va garder ce flou, on va rentrer évidemment dans ces négociations après le G7, on va voir ce qui se passe vendredi à Genève, on espère tous évidemment.
Donc pour l'instant, on a la version iranienne, on n'a pas vraiment la version américaine. Jim Vance dit qu'il pourrait éventuellement dans les heures qui viennent commencer à en dévoiler le contenu. Enfin, on sent que c'est encore très flou.
Mais bien sûr, et pour la raison que j'ai bien indiquée. Mais derrière, on voit bien que ce qui va se passer, c'est une recomposition, y compris du Proche-Orient. Et ça, c'est vraiment en route. Il y a évidemment, un grand perdant à l'heure où nous parlons. À l'heure où nous parlons, c'est évidemment Israël. Israël, et on voit du reste comment aujourd'hui Donald Trump traite Benjamin Netanyahou. Hein, il emploie des mots
très méprisants.
Très méprisant. Et par parenthèse, celui qui a ses grâces, c'est le nouvel Ayatollah. Un homme bien, ils sont pragmatiques, intelligents. Vous voyez, ça bouge, ça évolue.
C'est inouï. Je vois dans votre regard que vous êtes, j'allais presque dire affligé.
Non, c'est la réalité du monde dans lequel nous sommes. Voilà, il faut le prendre pour ce que c'est. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière, Apolline de Malherbe? La géographie, elle reste. Donc on va recomposer évidemment le Proche-Orient. Et ça va être comment? Le Proche et Moyen-Orient vont être complètement recomposés. Évidemment, Israël sera un acteur majeur, il va rester, par définition, bien entendu. L'Iran qui est renforcé, il va en sortir renforcé, bien sûr, ça va prendre du temps, parce qu'il y a eu beaucoup de destruction. Ils évaluent ça à 280 milliards de dollars, on verra bien. Ils vont essayer de se faire refinancer la reconstruction. Et puis, des nouveaux acteurs, des acteurs qui sont là, mais qui vont jouer un rôle important, qui ont déjà joué un rôle important. On pense évidemment à la Turquie. Donc, vous avez déjà ces trois acteurs qui vont reconfigurer quelque part la région et les rapports de force. Vous avez vu que je n'ai ni cité les États-Unis, ni cité l'Europe. Donc, à charge pour nous d'y revenir très vite. Et puis, vous avez aussi le Pakistan, bien entendu, et derrière, la Chine, qui est là et qui a observé de façon clinique ce qui se passait, qui a continué à soutenir l'Iran, notamment dans sa nécessité pour la propulsion de ses missiles balistiques dont vous avez constaté comme moi qu'ils sont sortis de l'accord, alors que ces missiles, ils peuvent toucher l'Europe, donc on est quand même concerné. Donc voilà, ça c'est la recomposition du monde qui est en route aujourd'hui. Et
une recomposition qui, quand je regarde effectivement le dessin que vous en faites, met l'Europe quand même à la marge. Il faut que nous arrivions à reconquérir. Est-ce que la symbolique, est-ce que le fait que, par exemple, demain soir, on garde Donald Trump sur le sol pour un dîner à Versailles, est-ce que c'est important? Est-ce que ça peut jouer? Ou est-ce qu'on n'est pas en train de se faire avoir par Donald Trump?
Alors j'entends ceux qui raillent et moquent cette soirée de demain. Je ne suis pas de ceux-là. Je pense que c'est très important. Personne n'est dupe sur ce qui se passe désormais aux États-Unis. Personne n'est dupe sur ces nouveaux rapports de puissance.
Pour autant,
il faut évidemment qu'on en tienne compte, et donc il faut continuer à parler, il faut s'adapter évidemment à ces nouveaux interlocuteurs et j'allais dire épouser leur grammaire, mais pour autant il faut qu'on en tire les conclusions. Ça veut dire que pour nous, l'Europe puissance, c'est maintenant une urgence absolue. Non pas encore une fois parce que nous sommes une puissance ou nous aspirons à être une puissance hégémonique, mais pour peser dans ces rapports de force dont je rappelais tout à l'heure qu'ils vont façonner le monde qui vient.
Alors moi je veux bien qu'on essaye de peser dans ces rapports de force, mais enfin la réalité des derniers jours avec notamment ce qui s'est passé sur l'intelligence artificielle. Donald Trump qui a littéralement coupé l'accès aux plus aboutis des outils de Claude, Fable 5 qui est donc censé être l'un des meilleurs moteurs d'intelligence artificielle au monde. Et vendredi soir, il a décidé pour des raisons de sécurité intérieure de couper cet accès à tout le reste du monde européen compris. Nous sommes dépendants. C'est-à-dire que s'il décide ensuite de couper d'autres choses, s'il décide de couper nos iPhones, nos Outlook, Google, il peut le faire d'un coup, en fait. Vraiment, on a l'impression qu'il a l'interrupteur.
Appelé de Malherbe. Il peut le faire d'un coup, pour peu que ça n'ait pas de répercussions économiques. Alors aujourd'hui, couper nos iPhones, couper Outlook, etc., ça aurait beaucoup trop d'implications économiques par rapport aux
fournisseurs. Il a besoin de nous comme clients.
Mais bien entendu, donc il ne le fera jamais. En revanche, vous avez parfaitement raison, ce qui s'est passé sur Anthropic est absolument systémique. Mais je voudrais le relier à autre chose. Pour lui, ce qui a été très important la semaine dernière, c'était deux choses, me semble-t-il. La première, c'était d'abord préparer son anniversaire. Parce que c'était finalement, je réunis le peuple MAGA autour de moi. Je rassemble la famille. Il l'a fait notamment avec...
À la Maison Blanche, avec la grande soirée de MMA et de motocross.
Et puis le deuxième, c'était de réussir la plus grande mise en bourse jamais réalisée.
Elon Musk.
Celle d'Elon Musk, qui est totalement... Alors, il y a une base de réalité, évidemment. Mais les analystes, je m'abrite derrière les analystes, sur la valorisation de 1800 milliards, excusez du peu, c'est-à-dire la moitié du PIB français, pour une entreprise qui fait 18 milliards de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 100 fois une valorisation son chiffre d'affaires, c'était du jamais vu. Il fallait qu'il la réussisse. Les analystes disent que ça valait 700 milliards ou 750 milliards. Bon, il y a donc 1000 milliards uniquement sur la marque Elon Musk, ce qui est du jamais vu dans l'histoire.
J'ai envie de dire, c'est la liberté de ceux qui décident d'y aller.
Et pourquoi je dis il fallait que ça réussisse? Parce que précisément, si jamais ça ratait, alors c'était précisément la bulle intelligence artificielle qui risquait d'exploser et qui aurait eu des répercussions massives sur le cours.
Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est une bulle.
Mais bien entendu, quand je vous dis qu'il y a 1000 milliards, c'est pas moi qui le dis, c'est les analystes. Donc c'est 1000 milliards de plus qu'on sait pas expliquer. Il n'en demeure pas moins que lorsqu'on fait une introduction en bourse où le Nasdaq est à moins 2%, c'était le cas jeudi matin, parce qu'il avait déclaré, sous les choses vont vite, Apolline de Malherbe, jeudi matin, il relançait la guerre, vous en souvenez, en Iran. Et donc, les bourses plongeaient. Ce que je veux vous dire, c'est que dans le milieu de l'après-midi, on a annoncé que, enfin, on allait avoir un accord, les bourses ont remonté. Ce que je veux dire, c'est que c'était très important, et pour les États-Unis, et pour lui, que précisément
dans la recomposition de l'intelligence artificielle... Est-ce que ça veut dire qu'au fond, vous êtes en train de laisser entendre que c'est une forme de super délit d'initié, c'est-à-dire que c'est une sorte de d'amitié faite, de tripoutage...
Je dis que lorsque Donald Trump...
Tripatouillage, c'est le mot que je cherchais.
Je vais être très précis sur ce point. Lorsque Donald Trump, 39 fois ou 40 fois, depuis le début des hostilités avec l'Iran, va dire qu'on y arrive, on n'y est pas arrivé, on y arrive, on ne veut pas arriver, il s'adresse aussi au marché. Il ne faut jamais qu'on l'oublie. Car ses propos pèsent dans un sens, et on l'a vu, sur les marchés. Et on l'a vu,
Est-ce que ça veut dire, Thierry Breton, c'est quand même très important ce que vous êtes en train de dire, est-ce que ça veut dire, Thierry Breton, que vous considérez qu'au fond, ce qu'on vient de se dire depuis le début de cet entretien, la question d'un accord, le timing choisi, est en réalité avec une arrière-pensée économique et en particulier le momentum, la mise en bourse d'Elon Musk.
Je suis de nouveau très précis. Cette mise en bourse est un élément absolument majeur dans l'histoire. Il fallait pas qu'elle rate. Je vais être très précis dans ce que je vous dis. Il y a évidemment la lecture géopolitique, on vient de le faire au cours de cet entretien. Il y a la lecture économique, mais il y a aussi toujours pour Donald Trump la logique marché. Du reste, les premiers propos qu'il va tenir, c'est que les navires recommencent à circuler, que le pétrole recommence à circuler à flot, et les marchés repartent en avant. Donc pour lui, ce que je veux dire, c'est que ses actions, toutes ses actions, sont à lire désormais avec cette vision multicritère. La dernière d'entre elles n'est pas la moins importante. C'est tout ce que je dis, parce qu'encore une fois, c'est le financement des États-Unis et de la tech américaine. Et c'est pour répondre à votre question très légitime sur Anthropic.
Sur l'intelligence artificielle.
Sur Anthropic, évidemment, on sait qu'il faut quoi? On sait qu'il faut des talents. Bah, désormais, avec Anthropic, on vient de dire, il dit que les talents non américains n'auront pas accès au développement. Bah, charge pour nous de réinviter ces talents. Il y a beaucoup d'Européens qui ont des visas H1B qui sont aux États-Unis, qui peuvent plus donc désormais travailler, dans l'intelligence artificielle.
Récupérons-les.
Il faut leur proposer, évidemment, de les attirer, de leur proposer.
Est-ce que vous diriez comme Raphaël Glucksmann qui a dit notre ennemi a un visage, il a un nom, il s'appelle Elon Musk, il s'appelle Sam Altman. Est-ce que vous diriez ces formules?
C'est pas une question d'ennemi. C'est aujourd'hui une question, encore une fois, c'est pour ça que je voulais représenter dans cette reconfiguration du monde. Les éléments qui pèsent, c'est évidemment la capacité à attirer des financements majeurs du monde entier pour financer, l'incertain. L'IA, c'est du certain, mais c'est aussi de l'incertain. Donc, il ne fallait pas rater ça. Il faut pas rater ça et on va continuer dans cette
politique-là. Vous avez vu que Donald Trump a également annoncé lundi que c'est le New York Post qui l'assure, que les États-Unis n'allaient pas avoir d'autre choix que d'imposer des droits de douane de 100% sur le vin français si Paris ne supprimait pas sa taxe numérique sur les géants américains de la technologie. Ça repart, quoi.
Et pourquoi Paris? Il y a 8 pays européens aujourd'hui, qui ont mis une taxe, parce que c'est légitime, encore une fois. On offre notre marché intérieur à ceux qui veulent y pénétrer. Il faut qu'ils respectent nos règles, par rapport à la première question
que vous m'avez posée. Mais vous y croyez, ou est-ce que c'est une menace?
Ça fait partie des menaces de déstabilisation. Il y a 8 pays, encore une fois, européens, qui ont mis ces taxes. Donc j'imagine que si jamais il veut qu'elles soient supprimées, je sais pas pourquoi, du reste, parce que, encore une fois, c'est vraiment l'objet de notre démocratie, qui est souveraine, d'avoir décidé ceci. C'est pas contre quelqu'un. C'est vraiment uniquement pour pouvoir bénéficier de notre marché intérieur. Il va falloir sans doute le faire aussi à l'Italie, il va falloir le faire au Danemark, il va falloir le faire à l'Autriche, aux 8 pays, à l'Espagne.
Mais pour ça, il faudrait qu'on soit solidaires, nous,
oui,
entre nous.
Oui, mais je rappelle qu'on a accepté 15% de droits de douane de façon unilatérale pour aller vendre des produits aux États-Unis contre zéro désormais pour les produits américains en Europe. La contrepartie, c'était la stabilité. Alors, il faut que la Commission européenne fasse respecter la stabilité, parce qu'encore une fois, c'est l'engagement qui a été pris.
Merci beaucoup Thierry Breton d'avoir répondu à mes questions. Une dernière, vous êtes à la fois français et sénégalais. Je crois que vous avez reçu la nationalité sénégalaise. À 21h ce soir, vous serez partagé devant le match.
Je vais pas regarder.
Vous regarderez pas, du coup. Thierry Breton, ancien commissaire européen et ancien ministre de l'économie. Merci d'avoir répondu à mes questions sur RMC BFM TV.
Merci Apolline, vous restez bien sur RMC. Dans le sillage du scandale du périscolaire et de l'affaire Liana, les parents ont-ils peur d'envoyer leurs enfants en colonie de vacances? Le choix de la rédaction à suivre, et puis le premier match des Bleus à la Coupe du Monde, le Mondial de Virginie avant 9h.
RMC, Apolline Matin.
Vous êtes sur RMC, le Mondial de Virginie. C'est avec vous Virginie Fulpin, bonjour.
Bonjour.
Dans un instant avec vous, les toutes dernières infos sur le Mondial, avec le premier match des Bleus ce soir bien sûr. Mais avant cela, le choix de la rédaction avec vous Louise Salé. Bonjour Louise.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes reporter au service Société d'RMC. Et après l'affaire Liana et les scandales d'abus sexuels dans le périscolaire, les parents hésitent de plus en plus à envoyer leurs enfants en colonie de vacances cet été. C'est ce que vous avez constaté, Louise?
Oui, absolument. Certains parents renoncent carrément à ces colonies de vacances. Pour RMC, Lucas Laubert a rencontré Karim, dont la fille aînée a 8 ans. Elle a déjà participé à un séjour l'an dernier, mais n'y retournera sans doute pas cet été.
Ah, c'est pas facile, hein. On y pense, on appréhende. Si je peux éviter, j'éviterai. C'est compliqué de savoir à qui on a affaire. Et avec toutes ces histoires, ça nous fait peur de plus en plus, vous voyez.
D'autres se disent très vigilants sur l'organisation des séjours. Ils s'interrogent sur la façon dont les enfants sont encadrés.
Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément habilités, ou en tout cas qui n'ont pas les façons de faire avec des petits-enfants.
Forcément, une colonie, dans ce contexte, elle doit mettre en place une politique. Elle doit justifier que les accidents ne vont pas arriver. Et je pensais au taux d'encadrement. C'est important de se dire qu'il y a toujours plusieurs adultes autour des enfants, et plutôt des femmes, on espère.
Et ces inquiétudes, elles n'existaient pas avant, Louise?
Alors, c'est pas nouveau que les enfants craignent pour la sécurité de leur enfant. L'Observatoire des vacances des enfants a publié hier un baromètre sur les séjours collectifs pour mineurs. Cette inquiétude sur la sécurité est citée parmi les principaux motifs de renoncement à une colonie en 2025 pour un quart des parents interrogés. C'est la même proportion qu'en 2023, donc ça reste assez stable. Mais pour l'été 2026, les mairies qui organisent elles aussi des colos perçoivent une inquiétude plus marquée. Antoine Jouenne copréside la commission éducation de l'Association des maires de France.
Depuis quelques mois, on constate effectivement des questions qui sont plus nombreuses qu'avant et qui sont aussi plus précises, avec besoin de comprendre précisément comment sont recrutés aujourd'hui les animateurs. Ça peut être à la fois des questions lors des réunions de préparation pour ces colonies, mais ça peut aussi se manifester par des mails, par des courriers.
Les communes expliquent alors aux parents que le casier judiciaire de chaque animateur est examiné. Une plateforme de l'État permet aussi de vérifier si cette personne n'a pas fait l'objet de signalement dans d'autres structures, même s'il n'y a pas eu de plainte ou d'enquête judiciaire.
Et du côté des organismes privés, milliers de colonies de vacances. Est-ce qu'ils ressentent eux aussi, Louise, l'inquiétude des parents ?
Ils constatent une baisse des inscriptions cet été, ça c'est certain, de l'ordre de 5% environ par rapport à l'an dernier pour les structures que j'ai interrogées. Mais pour eux, la raison est économique, parce que cette année, des aides de l'État pour financer des séjours ont été drastiquement réduites. Agnès Batiani dirige une fédération d'associations qui organise des colonies de vacances.
C'est pas la sécurité qui les freine, c'est vraiment les questions financières. Nous, on a quand même une culture de la formation de nos animateurs. Il y a tout un protocole de sécurité qui est mis en place depuis des années. C'est pas dans le périscolaire, c'est dans les colos, mais dans les colos, c'est extrêmement réglementé.
Les inspections des colonies de vacances sont en effet nombreuses. Le nombre minimum d'encadrants qui disposent d'un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur est scruté de très près. Et ce brevet contient d'ailleurs depuis peu un module obligatoire sur le traitement des violences sexuelles.
Merci Louis Salé, c'était le choix de la rédaction à retrouver sur l'application RMC.
RMC, le mondial de Virginie.
Et Virginie, vous êtes toujours avec nous. C'est ce soir que les Bleus commencent leur Coupe du Monde. France-Sénégal, 21h, en direct, en intégralité sur RMC. Ça commence bien avant, d'ailleurs, oui. Dès 15h sur RMC, disons-le, bien sûr. L'équipe de France qui reçoit beaucoup de soutien à New York.
Ouais, les supporters français sont réunis en masse à Times Square. New York ne dort jamais, les fans des Bleus non plus. L'équipe de France a aussi reçu un soutien directement dans son hôtel. Paul Pogba est passé voir ses anciens coéquipiers pour les encourager, ce qui est plutôt sympa.
Didier Deschamps cherche à enlever toute pression aux Bleus.
On lui fait pas, ça fait 14 ans qu'il est là, il sait comment s'y prendre en conférence de presse la veille de match. L'équipe de France est-elle favorite de la Coupe du Monde? Mais vous n'y pensez pas, la grande favorite c'est l'Espagne. Et hop, on refile la patate chaude aux Espagnols. Derrière, ils ont fait d'ailleurs un piteux match nul 0-0 contre le Cap-Vert. Oui, et puis de toute façon, un premier match, ça veut rien dire. Je paraphrase encore Didier Deschamps qui se réfère à la défaite initiale de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite il y a 4 ans. Et puis non, France-Sénégal, ça n'est pas une revanche de 2002 quand les Sénégalais avaient battu la France 1-0 à Séoul. N'importe quoi, les joueurs sur le terrain ce soir étaient ou pas nés ou ils apprenaient à marcher. Donc c'est bon, maintenant la pression, on l'évacue.
Hervé Renard qui remplace Sabri Lamouchi à la tête de la sélection tunisienne.
Il va monter dans l'avion ce matin, direction Monterrey au Mexique. Et ce soir, Hervé Renard va diriger son premier entraînement après un imbroglio de quelques heures. La fédération tunisienne a finalement officialisé le limogeage de Sabri Lamouchi. La déroute 5-1 contre la Suède n'est pas passée. Hervé Renard va jouer les pompiers pour la Coupe du Monde. Il a déjà disputé 4 mondiaux avec 4 équipes différentes. 2018 avec le Maroc, 2022 avec l'Arabie Saoudite et 2024 avec l'équipe de France féminine.
Et puis il y a des supporters qui vont mériter de voir Argentine-Algérie la nuit prochaine.
Trois Argentins partis de chez eux près de Buenos Aires le 16 août 2025. Ils ont parcouru 17 000 km à vélo pour enfin arriver à Kansas City. Leur rêve, c'est de rencontrer Lionel Messi et de voir l'Argentine gagner. Dans la série, on est prêt à tout pour son équipe. Il y a un Belge. Lui, il est parti de Bruxelles au volant de sa BMW de 1983 pour rejoindre Seattle. Bon, alors, entre-temps, il a pris un porte-conteneur, évidemment, et il a assisté au premier match de la Belgique à Seattle. Donc.
On va terminer avec l'Écosse, qui a un supporter pas très discret.
Vous le reconnaissez, Rod Stewart. Je ne sais pas si le chanteur est sexy, c'est ce qu'il demande, mais je sais qu'il n'est pas discret. Effectivement, ce week-end, il a annulé un concert prévu à Los Angeles pour des raisons médicales. Et 24 heures plus tard, on l'a vu s'époumoner dans les tribunes lors du match de l'Écosse contre Haïti à Boston. Ses fans n'ont pas franchement apprécié. Bon, c'est pas le premier à se faire porter pâle pour un match de Coupe du Monde, mais sauf que là, ça se voit un peu plus.
Bon, on vérifiera qui est là demain matin sur RMC. Merci Virginie, le match des Bleus, c'est ce soir. À suivre en direct en intégralité sur RMC avec nos envoyés spéciaux à New York où le match se déroule. À suivre aussi avec une Dream Team de champions du monde, Emmanuel Petit, Samuel Umtiti. Avant match, dès 18h, avec Jérôme Roten, entouré de la légende Jean-Michel Larquet et de l'ancien international sénégalais, c'est Souleymane Diawara. Débrief dans l'afterfoot jusqu'à 2h du mat. RMC Radio officielle de la Coupe du Monde. Vous ne manquez rien avec nous. Dans un tout petit instant, les GG. Quel est le programme, Alain Marchal? Bonjour.
Bonjour à tous. Nous reparlerons de ce restaurateur du Gers, vous savez, qui a mis la vidéo, qui a publié la vidéo de son cambrioleur. On reparlera aussi du public qui aujourd'hui s'informe davantage sur les réseaux sociaux qu'avec les chaînes de télévision ou les médias traditionnels. Est-ce que c'est une évolution contre laquelle il faut lutter ou pas? Ou c'est le sens de l'histoire, tout simplement? Et puis on reparlera aussi de Coluche, 40 ans après sa mort. Coluche reste l'un des humoristes préférés des Français, mais est-ce que Coluche pourra encore faire tous ses sketchs aujourd'hui? Vous venez réagir avec nous au 32-16.